Villiers de l'Isle-Adam, l'amour suprême. En exergue. Les cœurs chastes diffèrent des anges en félicité, mais pas en honneur. Saint Bernard. Ainsi l'humanité, subissant à travers les âges l'enchantement du mystérieux amour, palpite à son seul nom sacré. Toujours elle en divinisa l'immuable essence, transparue sous le voile de la vie, car les espoirs inapaisés ou déçus que laissent au cœur humain les fugitives illusions de l'amour terrestre, lui font toujours pressentir que nul ne peut posséder son réel idéal, sinon dans la lumière créatrice d'où il émane. Et c'est pourquoi bien des amants, ô les prédestinés, ont su dès ici-bas, au dédain de leur sens mortel, sacrifier les baisers, renoncer aux étreintes, et les yeux perdus en une lointaine extase nuptiale, projeter ensemble la dualité même de leur être dans les mystiques flammes du ciel. À ces cœurs élus, tout trempés de foi, la mort n'inspire que des battements d'espérance. En eux, une sorte d'amour phénix a consumé la poussière de ses ailes pour ne renaître qu'immortel. Ils n'ont accepté de la terre que l'effort seul qu'elle nécessite pour s'en détacher. Si donc il est vrai qu'un tel amour ne puisse être exprimé que par qui l'éprouve, et puisque l'aveu, l'analyse ou l'exemple n'en sauraient être qu'auxiliateurs et salubres, celui-là même qui écrit ces lignes, favorisé qu'il fût de ce sentiment d'en haut, n'en doit-il pas la fraternelle confidence à tous ceux qui portent dans l'âme un exil ? En vérité, ma conscience ne pouvant se défendre de le croire, voici en toute simplicité par quel chaînon de circonstances, de futile hasard mondain, cette sublime aventure m'arriva. Ce fut grâce à la parfaite courtoisie de M. le duc de Marigné que je me trouvai par ce beau soir de printemps de l'année 1868 à cette fête donnée à l'hôtel des affaires étrangères. Le duc était allié à la maison de M. le marquis de Moustier, alors aux affaires. Or, la surveille à table, chez l'un de nos amis, j'avais manifesté le désir de contempler par occasion le monde impérial. Et M. de Barnier avait poussé l'ubernité jusqu'à me venir prendre chez moi, rue Royale, pour me conduire à cette fête où nous entrâmes sur les 10h30. Après les présentations d'usage, je quittai mon humble interlocuteur et je m'orientai. Le coup d'œil du bal était éclatant. Les cristaux des lustres lourds flambaient sur des fronts et des sourires officiels. Des toilettes fastueuses jetaient des parfums. De la neige vivante palpitait au bord tout en fleurs des corsages. Le satiné des épaules que des diamants mouillés de lueur miroitaient. Dans le salon principal où se formaient des quadrilles, des habits noirs, sommés de visages célèbres, montraient à demi sous un parement l'éclair d'une plaque au rayon d'or neuf. Des jeunes filles, assises en toilettes de mousseline aux traînes enguirlandées, attendaient, le carnet au bout des gants, l'instant d'une contredanse. Ici, des attachés d'ambassade aux boutonnières surchargées d'ordres en pierreries passaient. Là, des officiers généraux, cravatés de moire rouge et la croix de commandeur en sautoir, complimentaient à voix basse l'aristocratique beauté de la cour. Le triomphe se lisait dans les yeux de ces élus de l'inconstante fortune. Dans les salons voisins, devisaient des groupes diplomatiques, parmi lesquels on distinguait un camail de pourpre. Des étrangères marchaient, attentives, l'éventail aux lèvres, aux bras de conseillers de chancellerie. Ici, les regards glissaient avec le froid de la pierre. Un vague souci semblait d'ordonnance sur tous les fronts. En résumé, la fête me paraissait un bal de fantômes, et je m'imaginais que, d'un moment à l'autre, l'invisible montreur de ces ombres magiques allait s'écrier fantastiquement dans la coulisse le sacramentel « Disparaissez !» Avec l'indolence ennuyée qu'impose l'étiquette, je traversai donc cette pièce encore et parvins dans un petit salon à peu près désert, dont j'entrevoyais à peine les hôtes. Le balcon d'une vaste croisée grande ouverte invitait mon désir de solitude. Je vins m'y accouder, et là, je laissai mes regards errer au dehors, sur tout ce pan du Paris nocturne qui, de l'arc de l'étoile à Notre-Dame, se déroulait à la vue. Ah, l'étincelante nuit! De toutes parts, jusqu'à l'horizon, des myriades de lueurs fixes ou mouvantes peuplaient l'espace. Au-delà des quais et des ponts sillonnés de lueurs d'équipage, les lourds feuillages des Tuileries en face de la croisée remuaient, verte clarté, au souffle du sud. Au ciel, mille feux tombaient dans le bleu noir de l'étendue. Tout en bas, les astrales reflets brûlaient dans le bleu noir et réfrissonnaient dans l'eau sombre. La Seine fluait sous ses arches avec des lenteurs de lagune. Les plus proches papillons de gaz, à travers les feuilles claires des arbustes, en paraissaient les fleurs d'or. Une rumeur dans l'immensité s'enflait ou diminuait, respiration de l'étrange capitale. Cette houle se mêlait à cette illumination. Et des mesures de valse s'envolaient du brillant des violons dans la nuit. Au brusque souvenir du roi dans l'exil, il me vint des pensées de deuil, une tristesse de vivre, et le regret de me trouver moi aussi le passant de cette fête. Déjà mon esprit se perdait dans cette songerie, lorsque de subits et délicieux effluves de lilas blancs, tout auprès de moi, me firent détourner à demi vers la féminine présence que sans doute il décelait. Dans l'embrasure, à ma droite, une jeune femme appuyait son coude ganté à la draperie de velours grenat ployée sur la balustrade. En vérité, son seul aspect, l'impression qui sortait de toute sa personne, me troublèrent à l'instant même, au point que j'oubliais toutes les éblouissantes visions environnantes. Mais où donc avais-je déjà vu ce visage? Oh, comment se pouvait-il qu'une physionomie d'un charme si élevé, respirant une si chaste dignité de cœur, comment se pouvait-il que cette sorte de Béatrix, aux regards pénétrés seulement du mystique espoir, c'était lisible en elle, se trouva égarée en cette mondaine fête. Au plus profond de ma surprise, il me sembla tout à coup reconnaître cette jeune femme. Oui, des souvenirs anciens, ou déjà pareils à des adieux, s'évoquaient autour d'elle. Et confusément au loin, je revoyais des soirées d'un automne, passés ensemble jadis en un vieux château perdu de la Bretagne, où la belle douairière de Locmaria réunissait à de certains anniversaires quelques amis familiers. Peu à peu, les syllabes, pâlies par la brume des années, d'un nom oublié, me revinrent à l'esprit. « Mademoiselle d'Aubélène, me dis-je. » Au temps dont j'avais mémoire, Lysiane d'Aubélène était encore une enfant. Je n'étais moi-même que dans ces ombrages adolescents, et sous les séculaires avenues de Locmaria, notre commune sauvagerie, au retour des promenades, nous avions ménagé plusieurs fois des rencontres de hasard à l'heure du lever des étoiles. Et, oh, je me rappelais, la gravité si étrange à pareils âges de nos causeries et la spiritualité de leurs sujets préférés nous avait révélé dans la haute mille affinités d'âme, telles que souvent entre nous de longs silences extra-mortels peut-être avaient passé. À cette époque, depuis déjà 2 années, elle n'avait plus de mère. Le baron de Bélène, aussitôt l'atteinte de ce grand deuil, ayant envoyé sa démission de commandant de vaisseau, s'était retiré tristement avec ses 2 filles en son patrimonial domaine, et ce n'était plus qu'à de rares occasions que l'on se produisait dans le monde des alentours. Cette réclusion n'offrait rien qui dût affliger une jeune fille née avec le mal du siècle, selon l'expression du pays. Le vœu de rester demoiselle, que l'on savait être son secret, se disait dans ses yeux aux lueurs de violette après un orage. En enfant sainte, elle se plaisait au contraire dans l'isolement, où sa radieuse prime verte se fanait auprès d'un vieillard dont elle allégeait les dernières mélancolies. C'était volontiers qu'elle s'accoutumait à vivre ainsi, élevant sa jeune sœur, s'occupant humblement du château, de ses chers indigents, les religieuses de la contrée dédaigneuses d'un autre avenir. Dispensatrice déjà d'œuvres bénies, elle se réalisait en cette existence d'aumône, de travail et de cantique, où la virginité de son être, à travers le pur encens de toutes ses pensées, veillait comme une lampe d'or brûle dans un sanctuaire. Or, nous ne nous sommes jamais revus depuis les heures de ces vagues rencontres en ce château breton. Voici que je la retrouvais soudainement ici à Paris, devant moi, sur cet officiel balcon nocturne, et que son apparition sortait de cette fête. Oui, c'était bien elle. Et maintenant, comme autrefois, la douceur des êtres qui tiennent déjà de leur ange caractérisait sa pensive beauté. Elle devait être de 23 à 24 ans. Une pâleur natale, inondant l'ovale exquis du visage, s'alliait, éclairée par deux rayonnants yeux bleus à ses moires bandeaux enlustrés, ornés de lilas blancs qui s'épanouissaient avant d'y mourir. Sa toilette, d'une distinction mystérieuse, et qui lui seyait par cela même, était de soie lamée d'un noir éteint, brodé d'un fin semis de jais, qu'une claire gaze violette violait de sa sinueuse écharpe. Une frêle guirlande de lilas blanc ondulait sur son svelte corsage, de la ceinture à l'épaule. La tiédeur de son être avivait les délicats parfums de cette parure. Son autre main, pendante sur sa robe, tenait un éventail blanc refermé. Le très mince fil d'or qui faisait collier supportait une petite croix de perles. Et, comme autrefois, je sentais que c'était seulement la transparence de son âme qui me séduisait dans cette jeune femme, et que toute passionnelle pensée à la vue me serait toujours d'un idéal mille fois moins attrayant que le simple et fraternel partage de sa tristesse et de sa foi. Je la considérais quelques instants avec une admiration aussi naïve qu'étonnée de sa présence en un milieu si loin d'elle. Elle parut le comprendre et aussi me reconnaître d'un sourire empreint de clémence et de candeur. En effet, les êtres qui se sentent dignes d'inspirer la noblesse d'un pareil sentiment l'acceptent avec une délicatesse infinie. Leur auguste humilité l'accueille comme un tribut tout simple, très naturel, et dont tout l'honneur revient à Dieu. Je fis un pas pour me rapprocher d'elle. Mademoiselle Dobelaine, lui dis-je, n'a donc pas totalement oublié depuis des années le passant morose qu'elle a rencontré dans le manoir de Locmaria. Oh, je me souviens en effet, monsieur. Vous étiez alors une très jeune fille, plus songeuse que triste, plus douce que joyeuse, dont le sourire n'était jamais qu'une lueur rapide. Et cependant, sous les pures transparences de vos regards d'enfant, oserais-je vous dire que j'avais déjà presque deviné la femme future, toute voilée de mélancolie, qui m'apparaît ce soir? Bien que vieillie, il me plaît que vous ne me trouviez pas autrement changée. Aussi, tout en vous voyant mêlée à cette fête, j'ai le pressentiment que vous en êtes absente, et que je suis pour vous plus étranger que si jamais vous ne m'eussiez connue. Vraiment, on dirait que déjà vous avez souffert de la vie. Elle cessa d'être distraite, me regarda comme pour se rendre compte de la portée que je voulais donner à mes paroles, et me répondit: Non, monsieur, du moins comme on pouvait l'entendre. Je ne suis point une désenchantée. Et si je n'ai réclamé, si je ne désire aucune joie de la vie, je comprends que d'autres puissent la trouver belle. Ce soir, par exemple, ne fait-il pas une admirable nuit? Et d'ici, quelle musique douce! Tout à l'heure, dans le salon du bal, j'ai vu deux fiancés. Ils se tenaient par la main, pâles de bonheur. Ils s'épouseront. Ah, ce doit être une joie d'être mère, et de vivre aimée en berçant un doux enfant au sourire de lumière. Elle eut comme un soupir, et je la vis fermer les yeux. « Oh, le parfum de ces lilas me fait mal, » dit-elle. Elle se tut, presque émue. J'étais sur le point de lui demander quel vague regret cachait cette émotion, lorsque, comme un informe oiseau fait de vent, d'échos sonores et de ténèbres, minuit, s'envolant tout à coup de Notre-Dame, tomba lourdement à travers l'espace et d'église en église, heurtant les vieilles tours de ses ailes aveugles, s'enfonça dans l'abîme, vibra, puis disparut. Bien que l'heure eût cessé de sonner, Mademoiselle d'Aubelien, accoudée et attentive, paraissait écouter encore je ne sais quel son perdu dans l'éloignement, et qui pour elle continuait sans doute ce minuit, car de très légers mouvements de sa tête semblaient suivre un tintement que moi je n'entendais plus. On dirait que vos pensées accompagnent jusqu'au plus lointain de l'ombre ces heures qui s'enfuient. Ah, murmura-t-elle en mêlant les lueurs de ses yeux au rayonnement des étoiles, c'est qu'aujourd'hui fut mon dernier jour d'épreuve, et que cette heure qui sonne n'est pour moi qu'un bruit de chaîne qui se brise, emportant loin d'ici toute mon âme délivrée, non seulement loin de cette fête, mais hors de ce monde sensible, où nous ne sommes nous-mêmes que des apparences et dont je vais enfin me détacher à jamais. À ces mots, je regardais ma voisine d'isolement avec une sorte d'inquiète fixité. Certes, répondis-je en vous écoutant, je reconnais l'âme de l'enfant d'autrefois. Mais ce qui m'interdit un peu, c'est ce natal et si profond désir de détachement qui persiste en vous, alors que la pleine éclosion de votre jeunesse et le charme mystérieux de votre beauté vous donnent des droits à toutes les joies de ce monde. Oh, dit-elle, d'une voix qui me parut comme le son d'une source solitaire cachée dans une forêt, quelle est la joie, selon le monde, qui ne s'épuise et ne se noie par conséquent elle-même dans sa propre satiété. Est-ce donc méconnaître le bienfait de la vie que de n'en point vouloir éprouver les dégoûts? Mais que sont des plaisirs qui ne se réalisent jamais, sinon mêlés d'un essentiel remords? Et quel plus grand bonheur que de vivre son existence avec une âme forte, pure, indéçue, et c'est d'en soustraire aux atteintes même de toute mortelle concupiscence, pour ne point déchoir de son idéal. Oh, il est aisé de se dire forte en se dérobant à l'épreuve de tout combat. Je ne suis qu'une créature humaine, faite de chair et de faiblesse, péchant, quand même toujours. Pourquoi voudrais-je d'autre lutte que celle-là dont je suis sûre de sentir victorieuse? Alors, lui demandai-je avec un affectueux étonnement, comment se fait-il que vous soyez venu ici ce soir? Un inexprimable sourire, fait de dédain terrestre et d'extase sacrée, illumina la pâleur de ses traits. J'ai dû subir dans ma docilité l'ancienne coutume du Carmel, qui prescrit à l'humble fiancé de la croix d'affronter les tentations du monde avant de prononcer ses vœux. Je suis ici par obéissance. » En ce moment même, d'harmonieuses mélodies du bal nous parvinrent plus distinctes. Une tenture du salon venait d'être écartée, laissant entrevoir un resplendissement de femmes souriantes dans les valses sous les lumières. Envisageant donc celle dont l'austère pensée dominait ainsi ses visions. Je lui répondis avec une émotion dont tremblait un peu ma voix. En vérité, mademoiselle, on se sent à jamais attristé par la rigueur de votre renoncement. Pourquoi cette hâte du sacrifice? La vie parut-elle sans joie? Celle qu'on peut dispenser ne lui donne-t-elle pas un prix? Il est beau de ne pas craindre les amertumes, de se prêter aux illusions, d'accepter les tâches que d'autres subissent pour nous, d'aimer, de palpiter, de souffrir, et de savoir enfin vieillir. Alors, n'ayant plus à remplir aucun devoir, si votre âme, lassée des froissements humains, aspirait au repos, je comprendrais votre retraite du monde, qui maintenant me semble, je l'avoue, une sorte de désertion. Elle se détachait comme un lys sur les ténèbres étoilées, qui semblait le milieu complémentaire de sa personne, et ce fut avec une joie d'élu qu'elle me répondit. Différer, dites-vous? Non, celle-là ne saurait avoir droit qu'au mirage du ciel, qui pourrait calculer leur holocauste de façon à n'offrir à Dieu que le but de leur corps et la cendre de leur âme. La puissance de sa foi fait à chacun la splendeur de son paradis. Et, croyez-nous, ce n'est que dans l'effort souverain pour échapper aux attaches rompues qu'on puise la surhumaine faculté des lancements vers la lumière divine. Pourquoi d'ailleurs hésiter? Le moment de n'être plus suit de très près, à tel point celui d'avoir été, que la vie ne s'affirme en vérité que dans la conception de son néant. Dès lors, comment même appeler sacrifice? Après tout, l'abandon terrestre de cette heure, dont le bon emploi peut sanctifier seul notre immortalité. Ici, la sombre inspirée se détourna vers le salon du bal que l'on entrevoyait encore. Sa main touchait le velours pourpre jeté sur la balustrade. Ses doigts s'appuyèrent par hasard sur la couronne de l'impérial écusson qui brillait au dehors en or repoussé, d'or bruni. « Voyez, continua-t-elle, certes ils sont beaux et séduisants, les sourires, les regards de ces vivantes qui tourbillonnent sous ces lustres. Ils sont jeunes, ces fronts, et fraîches sont ces lèvres. Pourtant, que le souffle d'une circonstance funeste passe sur ces flambeaux et brusquement les éteigne. Toutes ces irradiations, s'évanouissant dans l'ombre, cesseront momentanément de charmer nos yeux. Or, sinon demain même, un jour prochain, sans rémission, le vent de la nuit qui déjà nous frôle perpétuera cet effacement. Dès lors, qu'importe ces formes passagères, qui n'ont de réel que leur illusion? Que sert de se projeter sous toute clarté qui doit s'éteindre? Pour moi, c'est vivre ainsi qui serait déserté. Mon premier devoir est de suivre la voie qui m'appelle. Et je ne veux désormais baigner mes yeux que dans cette lumière intérieure dont l'humble Dieu crucifié daigne par sa grâce embraser mon âme. C'est à lui que j'ai hâte de me donner dans toute la fleur de ma beauté périssable. Et mon unique tristesse est de n'avoir à lui sacrifier que cela. Pénétré malgré moi par la ferveur de son extase, je demeurai silencieux, ne voulant troubler d'aucune parole le secret infini de son recueillement. Peu à peu, cependant, son visage reprit sa tranquillité. Elle se détourna, presque souriante, vers le vieil amiral de L.M., qui s'avançait, elle lui tendit la main et s'inclina comme pour s'en aller. « Déjà vous partez, murmurai-je, je ne vous verrai donc plus. »« Non, monsieur, » dit-elle doucement. « Pas même une dernière fois. » Elle sembla réfléchir une seconde et répondit « Bon, une dernière fois, oui, je veux bien. »« Mais quand ?» Demain, midi, si vous venez à la chapelle du Carmel. » Lorsque mademoiselle de Belaine eut disparu du salon, comme j'étais encore sous le saisissement de cette rencontre et de cet entretien, j'essayais, pour en dissiper l'impression, de me mêler à l'étincelante fluctuation de cette foule. Mais, au premier coup d'œil, je sentis qu'une ombre était tombée sur toutes ces lumières, et qu'il ne resterait tout à l'heure de cette fête que des salles désertes, où glisseraient comme des ombres des vallées livides sous des lustres éteints. Le lendemain matin, je sortis bien avant l'heure indiquée. La matinée, tout ensoleillée d'or, était de ce froid printanier dont frissonnent les rosiers rajeunis. Avril riait dans les airs, invitant à vivre encore. Et sur les boulevards, les arbres, les vitres, poudrés de grésil comme d'une mousse de diamant, scintillaient dans une vapeur irisée. L'esprit ému d'un indéfinissable espoir, j'avisai la première voiture venue. Environ trois quarts d'heure après, je me trouvais devant le portail d'un ancien prieuré, Notre-Dame-des-Champs. Je montai les degrés de la chapelle et j'entrai. L'orgue accompagnait des voix d'une douceur si pure que leurs accents ne semblaient plus tenir de la terre. Un hémicycle au grillage impénétrable formait les parois antérieures du sanctuaire. Là chantaient invisibles les continuatrices de Thérèse d'Avila. C'était l'office des trépassés. Un prêtre revêtu de l'étole noire disait la messe des morts. En face de l'autel s'élevait au milieu des fumées de l'encens une chapelle ardente. Sans doute on célébrait le service d'une religieuse de la communauté, car un drap blanc recouvrait le châsse posé très bas au-dessus des dalles et s'étalait jusqu'à terre en plis où se jouait à travers les vitraux couleur d'opale la lumière du soleil. Les mille lueurs des cierges, flammes de la forme des pleurs, éclairaient les autres pleurs d'or du drap funèbre, et ces feux semblaient tristement dire à la clarté du jour « Toi aussi, tu t'éteindras ». Dans la nef, l'assistance du plus haut aspect mondain priait, recueillie, le luxe et l'air des toilettes, ses senteurs de fourrure, l'éclat de velours bleu et noir, mêlait à ses funérailles une sorte d'impression nuptiale. Je cherchais du regard dans la foule Mademoiselle d'Aubelaine. Ne l'apercevant pas, je m'avançais, préoccupé entre la double ligne des chaises, jusqu'au pilier central à gauche de l'obside. L'offertoire venait de sonner. La grille claustrale s'était entr'ouverte. L'abbesse, appuyée sur une crosse blanche, se tenait debout au seuil, l'étincelante croix d'argent sur la poitrine. Des sœurs de l'observatoire ordinaire, en manteau blanc, en voile noire et les pieds nus, s'avancèrent et découvrirent la châsse dont les quatre planches apparurent vides et béantes. Avant que je me fusse rendu compte de ce que cela signifiait, le glas, cette négation de l'heure, commença de tinter, et le vieil officiant, se tournant vers les fidèles, prononça la demande sacrée. Si quelque victime voulait s'unir au Dieu dont il allait offrir l'éternel sacrifice, à cette parole, il se fit entendre comme un frémissement dans l'assistance, et tous les regards se portèrent vers une pénitente vêtue de blanc et voilée. Je la vis quitter sa place et s'avancer au milieu d'une rumeur de tristesse, de pleurs et d'adieux. Sans relever les yeux, elle s'approcha de l'enceinte, en poussa doucement la barrière, entra dans le chœur, ôta son voile, fléchit le genou, calme au milieu des cierges qui, autour de son auguste visage, formaient à présent comme un cercle d'étoiles, et posant sa main virginale sur le cercueil, répondit « Me voici. » Je comprenais maintenant. C'était donc là le rendez-vous sombre que m'avait donné cette jeune fille. Je me rappelais dans un éclair le terrible cérémonial dont la prise du voile est entourée par les carmélites de l'observance étroite, Les symboles de ce rituel se succédaient, pareils à des appels précipités de la pierre sépulcrale. Et voici qu'au milieu du plus profond silence, j'entendis tout à coup s'élever sa douce voix, chantant la formule des vœux de sa consécration. Ah, n'est pas à définir ici le mystérieux secret dont défaillait mon âme. Soudain, l'une de ses nouvelles compagnes, l'ayant revêtue lentement du linceul et du voile, puis déchaussée à jamais, reçut de l'abbesse les ciseaux sinistres sous lesquels allait tomber la chevelure de la pâle bienheureuse. À ce moment, Lysiane d'Aubélène se détourna vers l'assemblée, et ses yeux, ayant rencontré les miens, s'arrêtèrent, paisibles, longtemps, fixement, avec une solennité si grave que mon âme accueillit la condamnation de ce regard comme un rendez-vous éternel promis par cette âme de lumière. Je fermai les paupières, y retenant des pleurs qui eussent été sacrilèges. Quand je repris conscience des choses, l'église était déserte, le jour baissait, le rideau claustral était tiré derrière les grilles, toute vision avait disparu. Mais le sublime adieu de cette grande ensevelie avait consumé désormais l'orgueil charnel de mes pensées. Et depuis, grandi par le souvenir de cette Béatrice, je sens toujours au fond de mes prunelles ce mystique regard, pareil sans doute à celui qui, tout chargé de l'exil d'ici-bas, remplit à jamais de l'ardeur nostalgique du ciel les yeux de Dante Alighieri.